Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies.
Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
Bien sûr, tout le monde vous le dira. Dans cette fable interprétée ici par le chanteur Grégoire, le corbeau, naïf, vaniteux, s'est fait berner par le renard, rusé et maître du beau langage. C'est d'ailleurs bien la leçon que La Fontaine a voulu nous transmettre à nous, les humains, naïfs ou trompeurs de toutes les époques. Mais, et si derrière cette réalité la plus banale jouait en sourdine, bien d'autres histoires. Par exemple, si on transformait la fable de La Fontaine en une fable agroécologique, selon le modèle qui propose une alternative respectueuse de l'environnement. Voyons ce que ça donne.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur dérangée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau! Il sent bien fort, pardi, ce fromage écolo! Sans mentir, il fait des ravages. À mon nez, il est en outrage. Vous êtes le Hamish des hôtes de ce bois. » Puis il lance une appli, commande à tour de bras, des plats bien trop sucrés, des mets beaucoup trop gras. Le corbeau, lui, connaît bien la valeur des produits que l'on fait ici. Et il ne dépend point de la moindre industrie. C'est de son seul travail que fromage est le fruit. Les produits transformés commandés par Renard, par une erreur système, n'arrivèrent jamais. Corbeau invite alors le renard affamé à sa table pour partager son bon goûter. Et le goût du fromage ne fit que confirmer que l'adage du corbeau est une réalité. Produire localement, il n'y a que ça de vrai.
Il y a aussi cette version rap qui dérape et qui permet au chanteur Félix Djian de se libérer de sa violence intérieure, il le dit, et au passage de mettre un sacré bazar dans une classe de collège.
Corbeau, renard, fromage, fontaine. Corbeau, renard, fromage, fontaine. Cigale, fourmi, deuxième album.
Beaucoup trop de nervosité en moi, beaucoup trop de violence. Ma plume s'aiguise, ma plume est nerveuse. Je vais parler tous les animaux de la jungle. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Beaucoup trop de nervosité en moi, beaucoup trop.
Ouais. On va surtout s'intéresser à des histoires venues de la nuit des temps. Allez, ensemble, on va parcourir sur les ailes de notre corbeau les siècles passés et voir toute l'importance qu'il occupe dans notre imaginaire collectif et notre patrimoine culturel. Première étape.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne.
Ces corbeaux noirs qui volent sur nos plaines dans le chant des partisans, l'hymne de la résistance française composé en 1943 par Joseph Kessel et Maurice Druon, eh bien ces corbeaux noirs, ce sont bien entendu les nazis qui s'étaient abattus sur la France. Autre temps, autre peuple, autre tragédie, décidément les corbeaux ne cessent de s'abattre aujourd'hui encore sur les pays qu'on enchaîne. En cette même année 1943 sort le film d'Henri-Georges Clouzot intitulé « Le corbeau ». A vraiment une sordide histoire d'une petite ville de province où des citoyens reçoivent des lettres anonymes diffamatoires, toutes signées par un mystérieux corbeau. un film inspiré d'une affaire survenue à Tulle, en Corrèze, entre 1917 et 1922. Il paraît que le mot « corbeau », désignant l'auteur d'une lettre anonyme, vient d'ailleurs de ce film. Allez, on écoute un extrait de la bande-annonce.
C'est elle, le corbeau !
C'est faux ! C'est ignoble !
La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée !
Ce n'est pas vrai ! Je ne l'ai pas toujours tenue entre les mains !
Qu'est-ce que vous dites ? Vous osez m'accuser ?
Vous avez tenu la couronne ! C'est vous qui avez mis la lettre !
Moi ?
Mais vous, c'est vous !
Impossible de ne pas citer Les Oiseaux, le film réalisé par Alfred Hitchcock en 1963, inspiré d'une nouvelle de la romancière britannique Daphné du Maurier. Alors vous le savez, le film met en scène les attaques très spectaculaires et inexpliquées d'oiseaux de toute espèce sur les habitants de la petite ville de Bodega Bay, en Californie. Et les corbeaux sont parmi les oiseaux les plus belliqueux. Figurez-vous qu'il a fallu 3 ans de préparation avant le tournage et des milliers d'oiseaux dressés pour l'occasion. Sans compter les trucages qui contribuèrent à créer une ambiance de terreur. Ambiance de terreur, par exemple, si vous l'avez vu, vous vous souvenez certainement de la scène où des dizaines de corbeaux s'agglutinent sur un portique dans le dos de la personnage principale assise sur un banc. Quelques minutes plus tard, ces mêmes corbeaux vont attaquer par rafale les enfants sortant de l'école, paniqués, qui se mettent à courir en hurlant. Alors vous savez, vous pouvez vous rendre à Bodega Bay, en Californie, le village existe et vous pouvez même faire une photographie devant la façade de l'école. Ça fait un très très beau souvenir. À la même époque, 1951, Jean Giono publie son fameux roman Le Hussard sur le toit. L'histoire se déroule dans les années 1830 dans une Provence ravagée par le choléra. L'occasion pour des corbeaux de s'attaquer aux nombreux cadavres dans des scènes assez insupportables, je l'avoue. Donc, une image vraiment noire des corbeaux. Et pourtant, si l'on remonte les siècles à tire-d'aile, on s'aperçoit qu'il n'en a pas toujours été de même, bien au contraire. À Rome, par exemple, ce qu'on appelait les augures, c'était des devins chargés d'observer le ciel, pour deviner, évidemment, la volonté et les décisions des dieux. D'ailleurs, aucune décision importante n'était prise sans consultation des augures. Par exemple, l'emplacement d'un temple, la déclaration de guerre ou la désignation pour une fonction politique. L'augure observait le chant et le vol des oiseaux ainsi que la manière dont ils se nourrissaient. Et figurez-vous que les oiseaux qu'on observait avec le plus d'attention étaient l'aigle, bien sûr, on est à Rome, le milan, le hibou et le corbeau ainsi que la corneille. D'où l'expression « oiseau de bonne ou mauvaise augure » pour désigner quelqu'un qui prévoit de bonnes ou de mauvaises nouvelles. L'histoire du corbeau avait donc plutôt bien commencé. Vénéré dans l'Antiquité, admiré pour sa mémoire, son intelligence, par l'auteur romain Pline par exemple, d'après lui il serait le seul à comprendre les prophéties qu'il semblait annoncer. Messager des dieux, créateur du monde même, intermédiaire entre les morts et les vivants, entre les dieux et les humains, le corbeau n'a donc pas toujours été aussi noir de réputation. Comme de couleur d'ailleurs pour son plumage. Car figurez-vous qu'au départ, dans la mythologie grecque, le corbeau était blanc. Mais un jour, le dieu Apollon tombe amoureux d'une belle princesse. Alors il la confie à un corbeau, blanc donc au départ. Il lui confie le soin de veiller sur elle. Mais le corbeau relâche son attention et évidemment la princesse se laisse séduire par un mortel. Alors Apollon en est si jaloux qu'il tue son rival, mais aussi la jeune fille. Vous voyez d'ailleurs que la mythologie justifie sans aucun problème le féminicide. C'est son côté vraiment le moins appréciable. Et comme cette jeune femme était enceinte d'Apollon, eh bien le dieu extrait du ventre de sa victime son fils, qui sera le dieu Esculape. Bon, mais revenons-en à notre corbeau. Comme punition pour sa négligence, Apollon le revêt d'un plumage noir qu'il conservera. Bon, l'occasion malgré tout d'écouter un extrait de « Corbeau blanc », la chanson de Julien Doré, écrit en collaboration avec son ami, le chanteur Christophe.
Je quitte la rive et les gens. Depuis mon île politique, je prends l'exil des corbeaux blancs. Alors ce soir,
bien sûr, IDFM, nous poursuivons ce rendez-vous conte consacré à l'image du corbeau à travers les siècles et les cultures, image bien trop noire malheureusement. Même dégradation pour la corneille, proche du corbeau, mais qui n'est pas sa femelle. Oiseau symbole de la déesse Athéna, la corneille se montre trop bavarde. Alors Athéna la remplace par la chouette. Depuis, chouette et corneille seraient des ennemis inconciliables. Il paraît que la nuit, la chouette détruit les œufs de la corneille et la corneille s'attaque pareillement le jour aux yeux de la chouette. Malgré ses déboires avec les dieux de l'Olympe, le corbeau va continuer à faire l'objet de nombreux cultes païens. Par exemple en France, selon la légende de la fondation de la ville de Lyon, lorsqu'on eut fini de tracer l'enceinte de la future cité, une nuée de corbeaux vint se poser à l'intérieur du cercle, comme s'il venait donner la bénédiction du dieu gaulois Loug, que Plutarque rapproche du gaulois Lugos, qui aurait signifié corbeau. Finalement, le nom de Lugdunum, hein, c'est lion en latin, Lugdunum a pu être compris d'une manière emblématique comme la colline du corbeau. Les Vikings, eux, utilisaient beaucoup l'image du corbeau, par exemple comme symbole sur leur voile. Selon la légende, si la bannière flottait au vent, c'était présage de victoire, mais au contraire, si le drapeau pendait sans mouvement, eh bien, la bataille serait perdue. Toujours dans la mythologie nordique, les corbeaux Huguin et Munin étaient assis sur les épaules du dieu Odin. Ils lui rapportaient tout ce qu'ils voyaient et tout ce qu'ils entendaient. Alors Ondin les envoyait chaque jour, volait autour du monde afin de savoir ce qui s'y passe. Vous en voulez encore? En Allemagne, selon une légende du XIIe siècle, l'empereur Frédéric Barberousse ne serait pas mort. Il serait endormi avec ses chevaliers dans une caverne des montagnes de Thuringe. Et paraît-il, lorsque les corbeaux cesseront de voler autour de la montagne, l'empereur se réveillera et rétablira l'Allemagne dans son ancienne grandeur. Paraissant mort, en réalité endormi, l'empereur a les yeux mi-clos et de temps en temps, il lève la main pour signaler à un jeune serviteur d'aller voir si les corbeaux ont cessé de voler. Rendez-vous compte. C'est justement cette survivance de culte et de récits païens qui va déclencher la guerre de l'Église chrétienne contre le corbeau, en particulier dans l'Est et le Nord de l'Europe, où les Germains, les Scandinaves, les Slaves sont très peu christianisés. Les évangélisateurs sont effarés devant ces cultes, et surtout par le fait que les populations locales mangent toutes sortes d'animaux réprouvés par l'Église. Ils demandent alors au pape ce qu'il est prioritaire d'interdire, parce que bien sûr, on ne peut pas tout interdire d'un coup. Réponse du pape, le corbeau, en priorité, le pire de tous. Mais pourquoi le corbeau, me direz-vous? Alors là, il faut se reporter au tout début de l'Ancien Testament. Dans la Genèse, le corbeau est le deuxième animal nommé après le serpent. Il est tout aussi négatif que celui qui a incité Ève et Adam à commettre le péché original. Et puis, souvenez-vous, lors du déluge, Noé lance le corbeau, noir évidemment, pour savoir si les eaux ont enfin baissé et si la colère de Dieu s'est calmée. Eh bien, le corbeau ne revient pas apporter la bonne nouvelle attendue. Pourquoi? Eh bien, parce que monsieur préfère se repaître de cadavres. Noé lance alors la blanche colombe, qui elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec, symbole de la paix. Noé, sa famille et tous ses couples d'animaux débarquent alors sur la terre ferme. Du coup, le corbeau est maudit, considéré comme charognard, associé à la mort. Un animal diabolique en somme, l'animal de Satan. En Suède, les corbeaux ont longtemps représenté les fantômes des personnes assassinées et en Allemagne, les âmes des damnés. Dans la Bible pourtant, le corbeau joue parfois un rôle bénéfique. Par exemple, dans le premier livre des Rois, Dieu commande au corbeau de nourrir le prophète Élie. Tout comme plus tard, Saint Paul ermite est nourri par un corbeau lui aussi. De même, un corbeau aurait protégé Saint Benoît en lui dérobant volontairement du pain supposé béni, mais en fait empoisonné par un prêtre jaloux. Néanmoins, le corbeau tombe en disgrâce sous les plumes des pères de l'Église catholique. Pour permettre l'élimination des cultes païens qui lui sont encore dévoués, on le dit diabolique, porteur de tous les vices. Il devient le chef de file du bestiaire infernal qui entourerait Satan. Chaque société a en effet un petit nombre d'animaux qui comptent plus que les autres sur le plan symbolique. Dans le bestiaire européen, le trio de tête est toujours le même. L'ours, le loup et le corbeau, réceptacle de toutes les peurs de l'être humain face à la nature sauvage. C'est ce que nous raconte Michel Pastoureau, l'historien, auteur de « Le corbeau, une histoire culturelle » paru au Seuil en 2021. Cette politique d'évangélisation va forcément modifier durablement l'imaginaire lié au corbeau. Infidèle à ses maîtres, égoïste, impur car charognard. En plus, sa couleur noire en fait le symbole de la mort. Il est signe de cataclysme. D'où les massacres de corbeaux pratiqués jusqu'au cœur du XXe siècle. Et d'où l'image négative persistante du corbeau dans la littérature. Par exemple, dans La ferme des animaux, publié en 1945 par George Orwell.
Tous les animaux sont frères, petits ou grands, rusés ou naïfs, de poils ou de plumes. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné de la révolte.
Eh bien, le corbeau Moses est allié au fermier, Monsieur Jones, puis aux cochons qui ont finalement pris le pouvoir. Et pourquoi cette alliance? Eh bien, dans cet apologue politique, le corbeau représente l'Église qui aide les pouvoirs à maintenir l'ordre en endormant les consciences. Autre exemple, Edgar Allan Poe a utilisé le corbeau comme messager surnaturel dans son poème publié en 1845. Alors c'est l'histoire d'un homme qui se lamente sur la mort de son amour, Lénore. Une nuit, un corbeau perché en haut de sa porte répète inlassablement « jamais plus, nevermore » en anglais. Ce qui finit par plonger l'amant inconsolable dans la folie. Tiens, on en profite pour écouter le début de cette composition de Lou Reed où il récite le poème d'Edgar Poe, « The Raven », dans une atmosphère particulièrement fantastique. Forever silenced horror in his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadow to the floor. I love she who hates me more. I love she who hates me more. And my soul shall not be lifted from that shadow, nevermore. Vous êtes toujours bien sur EDFM, suite de ce rendez-vous conte consacré à la mauvaise image du corbeau dans notre image culturelle. Allez, encore un autre exemple. Les sept corbeaux, vous connaissez peut-être ce conte populaire allemand recueilli par les frères Grimm au début du XIXe siècle. Ces garçons qui ont mis en danger la vie de leur sœur sont transformés, suite à la malédiction de leur père, en corbeaux et se retrouvent reclus au bout du monde.
Conte de Grimm.
Les sept corbeaux. Un homme avait sept fils et toujours pas de fille, si fort qu'il le désira. Enfin, sa femme lui donna de nouveau des espérances, et quand l'enfant vint au monde, voici que c'était une fille. La joie était grande, mais l'enfant était chétive et petite, et à cause de sa faiblesse, il fallut l'ondoyer. Le père envoya l'un des garçons chercher en hâte de l'eau lustrale à la fontaine. Les 6 autres le suivirent, mais comme chacun voulait être le premier à puiser, ils laissèrent tomber la cruche dans le puits. Alors, ils restèrent plantés là, ne sachant ce qu'ils devaient faire, et aucun d'eux n'osait rentrer à la maison.
Comme ils ne revenaient toujours pas, le père s'impatienta et dit « Certainement, ils auront oublié de rentrer pour jouer, ces garçons impies !» Il se prit à craindre que la petite fille mourût sans baptême. Et dans sa colère, il s'écria « Je voudrais qu'ils soient tous changés en corbeaux !» Il avait à peine fini de dire ces mots qu'il entendit un battement d'ailes dans les airs, au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit 7 corbeaux, noirs comme du charbon, qui volaient de ci de là.
Les parents ne purent pas annuler l'enchantement. Mais, si tristes qu'ils fussent d'avoir perdu leurs 7 fils, ils se consolèrent néanmoins quelque peu avec leur chère petite fille, qui reprit bientôt des forces et embellit de jour en jour.
Prenons un autre exemple dans la peinture. Le champ de blé au corbeau, l'un des derniers tableaux peints par Vincent Van Gogh, en juillet 1890, eh bien, ce tableau assombrit un peu plus l'image noire du corbeau. En effet, le tableau représente un champ près d'Auvers-sur-Oise, la ville où Van Gogh a passé les dernières semaines de sa vie. 70 jours à Auvers, 80 tableaux, rendez-vous compte. Sur ce champ de blé au corbeau, 3 chemins de terre et d'herbe se perdent dans l'horizon. Comme si Vincent nous montrait qu'il ne sait pas lui-même quelle direction prendre. Et puis, de nombreux corbeaux se confondent avec le noir du ciel. C'est la seule présence physique dans la toile, comme si l'artiste soulignait lui-même sa propre solitude. Illustration de sa détresse intérieure. La croyance populaire veut d'ailleurs que ce soit dans ce champ précisément qu'il se soit donné la mort d'un coup de revolver le dimanche 27 juillet 1890. En réalité, il meurt 2 jours plus tard des suites de sa blessure. Et de nombreux experts supposent que ce champ de blé au corbeau est le tableau qu'il peignait juste avant de se suicider. Une toile testament, donc, où les corbeaux sont véritablement de mauvais augure. Fin d'une vie, celle de Vincent Van Gogh, fin d'un amour, comme celle que raconte Cœur de pirate dans cette très belle chanson intitulée « Corbeau ».
Et deux par deux, sans compter nos morts, qu'on laisse derrière des ébauches fanées, des secrets de carrière. Et trois par trois, de nos cœurs essoufflés, des secousses folles qu'on réfléchit plus tard. Maintenant il faut rêver. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, rhabille-toi. Et deux par deux, on avale nos mots. C'est dur d'oublier ce que l'on connaît et ce qui imprègne nos peaux. Et trois par trois, nos cœurs de la partie. On joue au couteau. Je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, ravis-toi. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, ravis-toi. Et deux par deux. C'est dur d'oublier ce que l'on a connu qui a imprégné nos peaux. Et trois par trois, nos cœurs de la partie. On joue au couteau et on peut partager le même lit.
Heureusement, notre corbeau bénéficie depuis quelque temps d'un regain de notoriété grâce au progrès de la science. En particulier, les recherches sur l'intelligence animale dans une société enfin préoccupée de la protection des animaux. On savait le corbeau capable d'utiliser des outils. Les Grecs et les Romains le considéraient comme le plus intelligent des oiseaux. D'ailleurs, plusieurs auteurs ont expliqué que si le corbeau de la fable abandonne le fromage au renard, eh bien, c'est qu'il sait que ce fromage est empoisonné et que le renard va en mourir. Vous voyez, ça change pas mal de choses. On sait que le corbeau maîtrise le langage, qu'il se révèle capable de tâches complexes et qu'il possède une mémoire franchement développée. Et même, paraît-il, de l'humour. Les corbeaux comprennent vite, ils prennent des décisions plus rapidement que les autres animaux. Le corbeau est au niveau des grands singes pour un certain nombre de tests. C'est pourquoi Michel Pastoureau, dont je vous ai déjà parlé, estime que le corbeau pourrait bel et bien être pour de bon le phénix des hôtes de ces bois, contrairement à ce que Jean de La Fontaine suggérait dans sa fable « Le corbeau et le renard ». Une dernière histoire venue de la nuit des temps et des hommes qui jouent en sourdine dans la réalité la plus quotidienne. Vous connaissez sans doute les grands corbeaux qui vivent en captivité à la Tour de Londres. Eh bien, figurez-vous qu'une superstition veut que, si les corbeaux de la Tour de Londres sont perdus ou s'envolent, eh bien la couronne britannique tombera et la Grande-Bretagne avec elle. C'est pourquoi l'une de leurs ailes est taillée périodiquement pour s'assurer que les oiseaux ne quittent pas les lieux. Ce n'est qu'une légende, parce que la Tour de Londres a connu de longues périodes sans corbeaux, et ceux-ci ont été réintroduits pour la dernière fois après la Seconde Guerre mondiale. Moralité surtout pour faire plaisir aux touristes. Mais ils doivent être au minimum 6. Chacun porte un nom, Munin, Jubilé, Grippe, Harris, Rocky, Erin, Merlina. Et figurez-vous que l'un des gardes des corps d'apparat de la tour, qui a pour fonction d'être le maître des corbeaux, est affecté à la prise en charge de ces oiseaux et qu'il est le seul à pouvoir les approcher. Rendez-vous compte.
Maître corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage.
Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre large.
Ainsi s'achève notre rendez-vous compte consacré à l'image bien trop noire du corbeau à travers l'histoire, des légendes et des coutumes venues de la nuit des temps et des peuples, des histoires souvent inconnues, oubliées, mais qui, elles, ne nous oublient pas. Et je vous recommande absolument le livre de l'historien médiéviste Michel Pastoureau, spécialiste des couleurs et de l'histoire culturelle des animaux, avec ce titre « Le corbeau, une histoire culturelle » paru au Seuil en 2021. La suite de ces histoires culturelles consacrées aux loups, aux taureaux, aux cochons et même à la licorne. Alors, clin d'œil à mes amis du Parti Animaliste et de L214 qui luttent pour améliorer la condition animale dans tous ces domaines. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur EDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Valoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur EDFM Radio, évidemment.